la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit. Et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur. Ce sera tout à fait comme...
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune. Et ça tombe bien, ce soir, c'est la pleine lune. Et oui, puisque l'heure d'hiver est arrivée, on la voit vraiment bien. La pleine lune, un mercredi de pleine lune. Que demander de plus ? Dans quelques instants, nos nouvelles. Ensuite, Marie-Ange et Isabelle nous ont préparé un memento absolument époustouflant. Et à 21h, une émission sur les femmes dans les pays de l'Est. Le sujet est d'actualité. À tout de suite pour les nouvelles. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Onde Femme, Radio Zone, nos nouvelles. Allemagne réunie, année zéro. Mardi, hier, à minuit, sous les feux d'artifice, les discours et les cris arrosés de bière d'un million de badauds, l'Allemagne de l'Ouest a avalé l'Allemagne de l'Est. À quelques pas de là, la grande fête, s'est déroulée une autre manifestation pour inaugurer l'année zéro de la République utopique. Se sont retrouvés là tous ceux qui désirent la mise sur pied d'une troisième voie entre le communisme totalitaire et le capitalisme de la provocation consommatrice. Le chanteur Wolf Biermann était là, toujours aussi apprécié. Expulsé de RDA à l'époque, le voici encore du côté des protestataires. Il y en a qui sont toujours vraiment contre le pouvoir. Se sont retrouvés là tous ceux qui ont vraiment cassé le mur de Berlin par leur détermination et leur courage. Tous ceux qui, jour après jour, semaine après semaine, sont descendus dans les rues de la RDA pour réclamer plus de liberté. Ceux-là qui ont chassé Honecker et sa Stasi. De ceux-là, aujourd'hui, aucun n'est au pouvoir. Car comme un participant de hier le disait, notre révolution a été achetée par des marques. Les effets pervers de la réunification se font déjà sentir. Il y a déjà actuellement en l'ex-RDA 2 millions de chômeurs, alors qu'auparavant il n'y en avait aucun. Le sort de l'avortement, libre en RDA, contrôlé en RFA, le droit de travail pour les femmes, les crèches, des facilités pour les mères, tout cela sera remis en ballottage. Les femmes, plus que tous, se méfient de du futur. D'après un sondage mené par l'Institut de recherche internationale sur le changement social, les réponses des femmes à un questionnaire sont très perplexes et inquiètes. D'après une des chercheuses, les explications viennent du fait que les femmes de l'Est travaillent plus. Elles sont beaucoup plus émancipées et sûres d'elles-mêmes. En RDA, 2/3 des femmes entrent dans la catégorie des achievers, celles qui veulent réussir, contre 1/3 des hommes. En Allemagne de l'Ouest, 45% seulement des femmes sont des achievers. Le danger est que les femmes, force vitale de la société allemande, est-allemande, seront les premières frappées par le chômage. Elles risquent d'être les grandes perdantes de la réunification. Ce week-end d'ailleurs, plus de 15 000 femmes ont défilé dans les rues de Berlin pour protester contre l'unification allemande qui accentuera, selon elles, les inégalités entre les sexes et privera les Allemandes de l'Est du droit d'avorter à leur demande. En Pologne, le Sénat accouche d'une loi anti-avortement. Élue démocratiquement l'année dernière, la Chambre polonaise a voté samedi une loi interdisant et pénalisant l'avortement. Cette décision intervient un mois après le retour du catéchisme dans les établissements scolaires et de la prière commune. Le Sénat a voté samedi dernier une loi interdisant et pénalisant l'avortement. Approuvée par les 2/3 des voix des sénateurs, la loi n'entrera en vigueur qu'après son adoption éventuelle par la deuxième chambre du Parlement, la Diète, et sa signature par le président de la République. L'initiative législative du Sénat prévoit une peine de 2 ans de prison ferme contre le médecin qui pratique l'avortement. Le Sénat a longuement débattu puis rejeté un autre article pénalisant la femme qui accepte l'intervention du médecin, avant d'aboutir à un compromis. La femme qui pratiquerait sur elle-même par des moyens artisanaux l'avortement risque la même peine de 2 ans d'emprisonnement. Vendredi, au Sénat, le débat sur l'avortement a donné une avant-première de ce que sera au début d'octobre la séance à la Diète. Il a duré 7 heures et les sénateurs ont discuté tous les aspects biologiques, historiques, économiques et patriotiques de la question. Du point de vue des sciences naturelles, les arguments étaient classiques. Tout être humain a le droit à la protection juridique. Les contre-arguments ne faisaient pas le poids et ne suffisaient qu'à faire rire la galerie. On a entendu par exemple dire « Une femme enceinte devrait-elle par conséquence oblitérer 2 tickets de tramway ?» Un des sénateurs expliquait longuement que l'Empire romain avait disparu car les Romaines estimaient que la grossesse était peu élégante. Il a évoqué également des raisons patriotiques et géopolitiques. Qui défendrait la patrie en danger si l'on avorte les futurs soldats de la République ? Un autre orateur a défendu la loi pour des raisons purement économiques. Qui travaillerait à l'avenir pour payer nos retraites ? L'auteur de la loi, le sénateur Piotrowski, leader du petit parti national chrétien, a affirmé qu'une femme honnête ne tombe pas en grossesse comme cela, je cite. Il a rejeté un amendement à la loi prévoyant un traitement plus indulgent aux femmes victimes de viol, argumentant, je cite, qu'une femme qui ne le veut pas ne sera jamais violée. Et le sénateur Kaczynski, leader du Centrum, a déclaré que tous les bons Polonais sont contre l'avortement et si quelqu'un s'y oppose, il s'agit, je cite, de la mauvaise partie de la nation. Le projet de loi devra donc passer à la Diète et il est peu probable, en théorie, qu'il soit accepté. Mais le Parlement polonais évolue très vite ces dernières semaines. Et il faut rappeler que Waleza, par exemple, défend le projet interdisant l'avortement. Le samedi, au moment où la loi était définitivement votée par le Sénat, des membres du mouvement de défense des femmes polonaises ont manifesté devant l'Assemblée. Les manifestantes ont ensuite traversé la ville dans un cortège silencieux au pas d'enterrement. Elles étaient un millier et portaient des banderoles très anti-gouvernementales qui faisaient frémir les passants, en commençant par « Il n'y a pas de liberté avec solidarité » jusqu'à « Abat les curés, la dictature noire est pire que la rouge ». Il est plus que probable que cette campagne se fera, entre autres, que la campagne pour les élections se fera sur le thème de l'avortement. Walesa a été le premier samedi à se féliciter de la décision des sénateurs. Stelmachowski a voté pour. Le premier ministre Mazowiecki, actuellement en visite aux États-Unis, devra lui aussi prendre position au risque de perdre son électorat de gauche, qui selon les sondages constitue environ 20 à 25% de la population. En bon catholique, il ne peut qu'approuver le vote du Sénat. Il sera la première victime de la loi anti-avortement. Une nouvelle affaire du foulard à Ferney-Voltaire, cette fois-ci tout près de la frontière avec Genève. Une élève portant le foulard islamique a été interdite de collège. Jean-Michel Fouquet, le proviseur du Collège international de Ferney-Voltaire, vient d'interdire à une jeune irakienne coiffée du foulard islamique l'accès aux salles de classe. Il s'agit de Nour Kadi, une jeune irakienne de 11 ans. Dans un premier temps, le proviseur a convoqué le père, un informaticien réfugié politique. Mais celui-ci refuse de transiger, prétextant que c'est contraire à ses convictions religieuses. Jean-Michel Fouquet, quant à lui, a décidé de faire respecter le principe de laïcité dans un établissement et d'appliquer le contenu de la circulaire Jospin. Il a donc interdit à l'élève de venir avec son foulard. En Suisse, le tribunal fédéral décrète l'interdiction du travail pour les femmes le dimanche et la nuit, toujours valable. Aucune femme ne pourra à l'avenir travailler le dimanche dans l'industrie de la microélectronique marin SA. Ainsi en a décidé vendredi le tribunal fédéral, tranchant une controverse vieille de 2 ans qui opposait la direction de l'entreprise au syndicat. Le tribunal fédéral a expliqué qu'il n'avait pas suffisamment d'arguments dans le cas de l'usine de Marin pour ouvrir une brèche dans l'interdiction pour les femmes de travailler le dimanche. Le 3 octobre 88, l'OFIANT, l'Office fédéral de l'industrie des arts et des métiers, avait octroyé à l'entreprise de Marin plusieurs autorisations concernant le travail par équipe, de nuit et le dimanche. Ces autorisations permettaient aussi d'employer jusqu'à 15 femmes le dimanche. Le département fédéral de l'économie publique, ayant rejeté plusieurs recours des personnes concernées, celles-ci se sont adressées au tribunal fédéral qui leur a donné raison. À Genève, une Iranienne et ses enfants refoulés. Mardi matin, la femme et les enfants de M. S, ressortissant iranien qui avait été refoulé de Genève vers Téhéran il y a un mois, nous en avions déjà parlé, cette famille avait été séparée, elle était arrivée directement, elle était venue d'Iran en passant par l'Allemagne, arrivée à Genève, on avait immédiatement renvoyé le mari, laissant la femme et les enfants à Genève dans un état de désespoir et de difficultés très grandes. Aujourd'hui, hier donc, c'est au tour de cette femme et de ses enfants de se voir donner le congé. Elle a donc dû quitter la Suisse, mais pour l'Allemagne cette fois-ci. Cette décision illustre, selon le Centre social protestant de Genève, je cite, le peu de place que les autorités responsables de l'asile accordent aux considérations humaines. Madame S et ses enfants sont maintenant actuellement retenus dans les locaux de la police des frontières de l'aéroport de Francfort. Elles sont accompagnées avec d'un psychiatre iranien domicilié à Genève qui les accompagnait pour soulager la grande détresse de Madame S. Quand on sort de Monsieur S, il est plus qu'incertain. Pour l'Office fédéral des réfugiés, rien ne prouve, comme semble l'affirmer le Centre social protestant, qu'il ait été arrêté aussitôt après son retour en Iran. En Suisse, une campagne de vaccination intense fait des remous. Malgré les critiques de certains médecins et des expériences négatives aux États-Unis, le Conseil national soutient la campagne de vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Par 84 contre 25, la Chambre du peuple a refusé jeudi de donner suite à l'initiative d'un écologiste bernois qui demandait que l'on stoppe cette campagne. L'Office fédéral de la santé publique a lancé cette campagne nationale de vaccination en 87 dans le but d'éradiquer la rougeole, la rubéole et les oreillons d'ici l'an 2000. Mais plus le corps médical n'est pas du tout unanime sur la question. 180 médecins ont fait observer que ces maladies d'enfants ont leur utilité du fait qu'elles renforcent le système immunitaire. De plus, la généralisation de cette triple vaccination est disproportionnée. Les garçons n'ont pas besoin d'être vaccinés contre la rubéole et les filles n'ont pas besoin d'être vaccinées contre les oreillons. En lançant cette campagne de vaccination sans consulter les parents, les médecins et les milieux concernés, l'Office fédéral de la santé publique n'a pas respecté les règles démocratiques, a argumenté le député écologiste bernois. À propos des États-Unis, où 95% de la population est vaccinée, on a pu entendre qu'on avait observé une recrudescence des épidémies de rougeole et que celle-ci avait fait 10 fois plus de victimes que ce n'était le cas avant le lancement de la campagne de vaccination. Par conséquent, on estime qu'il faut laisser le soin aux parents de décider. Sommet international aux États-Unis sur le problème de l'enfance. Premier sommet mondial de l'enfance qui s'est tenu ce week-end aux Nations Unies sous l'égide de l'UNESCO. On a pu y entendre quelques chiffres terribles car il est urgent que les grands de ce monde se mobilisent autour de l'enfance. Les chiffres démontrent froidement la gravité de la situation. 250 000 enfants meurent chaque semaine de maladies faciles à prévenir et de malnutrition. Le tableau est également très sombre pour l'éducation. Plus de 100 millions d'enfants en âge d'aller à l'école, dont 60 millions de filles, n'ont jamais pénétré dans une salle de classe. Plus de 960 millions d'adultes, dont les deux tiers de femmes, sont illettrés. Les efforts des années 70 ont été balayés dans les dures années 80. Dans les 37 pays les plus pauvres du monde, les dépenses scolaires par élève ont diminué d'environ 25% au cours de la dernière décennie, dit l'UNICEF. Les dépenses d'investissement, y compris l'achat de livres, de plumes et de crayons, ont complètement cessé dans de nombreux pays et des milliers d'enseignants ont quitté leur poste après avoir travaillé pendant des mois sans percevoir de salaire. À la veille de ce sommet, on a parlé beaucoup aussi des enfants fantômes de Roumanie, ceux qui ont été classés irrécupérables par le régime Ceaușescu. Le gouvernement a lancé un appel à la communauté internationale pour améliorer le sort de 130 000 enfants abandonnés et handicapés placés en institution. Ils ont été relégués dans des institutions, dans des espèces de mouroirs, après avoir été classés néo-cuperabili, irrécupérables, à l'âge de 3 ans par une commission médicale chargée du tri des enfants à la sortie des orphelinats du département. Les conditions sont terribles. Âgés de 3 à 18 ans, ces handicapés moteurs ou mentaux vivent une promiscuité de bétail, oubliés de tous dans cet hôpital privé de téléphone depuis plus d'un an. La Roumanie a découvert avec effroi ce qu'on appelle les Kaminspital, ces véritables mouroirs généralement bâtis à l'écart des agglomérations où les enfants sont comme en sursis, sous l'œil indifférent d'un personnel débordé et incompétent. Monsieur Virgilu Radulian, président du comité roumain de l'UNICEF, confirme que la douloureuse situation des enfants placés en institution est, je cite, le résultat de la conjonction d'une politique nataliste forcenée et d'une situation économique dramatique. Aucune structure d'accueil n'a par exemple compensé l'absence de plus en plus fréquente de la mère obligée de travailler pour survivre. Selon les statistiques de 85, 45% des Roumaines travaillaient. Elles formaient presque 40% de la population active. En Union soviétique, dans la province du Kazakhstan, essai nucléaire interdit. Les autorités régionales de la République soviétique du Kazakhstan ont interdit les tests nucléaires sur la principale base d'essai du pays. Pour justifier leur décision, les autorités ont invoqué le souci de la santé publique et de l'avenir de la région. Déjà en novembre dernier, le Parlement du Kazakhstan avait demandé à Moscou d'arrêter les essais. On note effectivement une recrudescence très forte dans cette région d'enfants malades, du même genre de maladie que l'on trouve autour de Tchernobyl, en Ukraine et en Biélorussie. En Suisse, les assurances modifient leur position quant aux séropositifs. Pour les assurances, comme pour les médecins, les séropositifs sont considérés comme étant malades. Cette nouvelle décision du Tribunal fédéral des assurances suscite interrogations et incertitudes auprès des spécialistes du sida. Pour les caisses maladies, toute personne qui contracte le virus du sida sera considérée comme malade dès le début de l'infection. Pareille décision entraîne deux conséquences pratiques immédiates. Le traitement préventif pour les patients qui est asymptomatique, c'est-à-dire qui ne présentent aucun symptôme de la maladie, qui ne sont pas malades, sont remboursables dès le début. En revanche, les assurances peuvent sortir d'une réserve les nouvelles polices d'assurance lorsque l'assuré est déjà séropositif. Les frais entraînés par cette maladie ne sont alors pas couverts pendant 5 ans. L'aide suisse contre le sida tente de dresser les conséquences pratiques d'une telle décision. Il y aura premièrement la question du dépistage dans les lieux de travail, puisque la séropositivité est considérée comme maladie. Ça devra faire à ce moment l'objet d'un questionnaire, voire d'un dépistage, qui sera en contradiction avec la recommandation du Conseil de l'Europe que la Suisse a acceptée de ne pas faire de dépistage par rapport au virus du sida. De plus, si le séropositif est considéré comme malade dans le droit du travail, cela entraînera des conséquences néfastes pour l'assurance chômage. Toujours au sujet du sida, à Zurich, l'État lance une brochure d'information s'adressant au personnel des écoles enfantines, des crèches et des écoles primaires. Car il y a déjà à Zurich une 60aine d'enfants séropositifs ou malades qui vont ou qui iront à l'école. Cette brochure indique que faire ou ne pas faire. En Suisse, en mars dernier, on recensait 248 enfants de mères séropositives et donc une 60aine d'enfants séropositifs ou malades sont et seront scolarisés à Zurich. Il s'agit de savoir ce que l'on peut faire pour eux. S'adressant aux enseignants, aux autorités scolaires, administratives et aux parents, un document établi par l'État de Zurich peut être lu d'ailleurs par tout le monde et par tout et chacun. Dans ce document, on rappelle aux enseignants qu'un enfant séropositif ne représente dans la vie de tous les jours aucun danger. En conséquence, ceux qui savent ou qui apprennent son état ont l'obligation de se taire. Les parents n'ont aucunement le devoir d'informer l'école. Mais si des rumeurs circulent et si en raison de tel bruit, tel parent veut faire à son gosse changer d'école, il faut l'avertir que l'autorité scolaire n'accédera pas à son désir. Aux parents, la brochure redit que rien ne les oblige à dénoncer la séropositivité de leur enfant et que s'ils sentent le besoin de partager ce secret, il n'ira pas plus loin que ceux-là même auxquels ils le confient. Aux autres parents, on confirme qu'il n'y a pas d'instruction particulière à donner aux enfants. On parle aussi dans ce bouquin par des seringues, de conseiller aux enfants de ne jamais les toucher, bien sûr, de les ramasser sans toucher l'aiguille, mais on rappelle aussi que il est en fait que toutes les seringues ne sont pas infectées, que si la seringue est infectée, le cas échéant, le virus n'y survit que quelques heures et que jamais à ce jour, à la connaissance des médecins suisses, aucun enfant n'a été contaminé par ce moyen-là. En France, à Marne-la-Vallée, on se prépare à ouvrir un grand Euro Disneyland. L'embauche des petits Mickey et Minnie est pourtant assez spéciale. Tout se passe en américain, bien sûr, et le tout enrobé de religion Mickey. L'apparence physique et vestimentaire est un élément crucial de sélection. Soit interdit, le tatouage, le port du blue jeans pour les femmes, les fentes, les plis d'aisance, les fermetures à pression et à boutons qui dépassent 12 cm au-dessus de la moitié du genou, les ongles de plus de 7 mm, les ombres à paupières, pour les hommes les cheveux trop longs qui ne dégagent pas les oreilles, les barbes et les moustaches. Aujourd'hui, le moustachu Walt Disney ne pourrait pas travailler dans ses propres parcs. Le diamètre des boucles d'oreilles ne doit pas dépasser 2 cm. Les chaussures doivent avoir un talon d'au moins 1 cm. C'est à la, etc. La CGT condamne, la CFDT s'interroge sur les limites de ce type d'exigence tout en reconnaissant que d'autres entreprises imposent des contraintes du même ordre. Au Jura, une chercheuse dissèque la sexualité du XVIIIe siècle. Fornication, adultère, inceste, sodomie, bestialité. Aline Pope de Seigné-Légier a plongé le nez dans la déviance sexuelle au XVIIIe siècle aux Franches-Montagnes. À partir d'une recherche sur les bâtards, elle a épluché toutes les archives de Porrentruy. Il en sort que, au XVIIIe siècle, 71 délits contre les mœurs pour 7300 habitants ont été recensés, ce qui est énorme si on compare aux d'autres délits, par exemple 41 délits commis contre l'État ou 54 crimes contre les personnes. À relever, bien sûr, que tout divorce est interdit à l'époque et que toute relation hors mariage, fornication ou adultère relève des tribunaux pénaux. Il ne faut surtout pas dépasser certaines normes, sinon la justice se voit aussi contrainte, par exemple, d'intervenir en cas de naissance d'un bâtard, car les sages-femmes sont assermentées et doivent dénoncer la femme qui vient d'accoucher. On fait donc tout pour éviter que le scandale éclate. Il y a plusieurs raisons pour cela. Une raison économique d'abord, le bannissement d'un homme est dramatique pour une famille. Et puis l'honneur, bien sûr, la peine infamante est celle qui est la plus crainte. Le condamné se retrouve exposé durant l'office, les bras en croix, au regard des autres paroissiens. Restent bien sûr des sujets tabous, gardés secrets, comme la sodomie et la bestialité, qui sont très sévèrement réprimés. Un tel qui a avoué avoir commis l'acte avec une vache s'est retrouvé banni après avoir écopé de 15 coups de fouet. Le propriétaire de l'animal a été obligé de la tuer ou de la vendre en dehors du pays pour effacer cet acte abominable. Beaucoup des traits du XVIIIe siècle sont d'actualité, dit Aline Pope. Ainsi, c'est toujours la femme qui est responsable, c'est elle qui séduit, qui fait le mal. Pour le reste, les mauvaises langues, la rumeur, la peur du scandale et l'honneur sont toujours de mise. Une bonne ou une mauvaise nouvelle, si vous voulez choisir vos vacances, n'allez pas en URSS, allez plutôt aux États-Unis, car en URSS, les prix du McDonald's ont doublé à Moscou. Le restaurant McDonald's de Moscou a doublé ses tarifs lundi, ce qui le rend pratiquement inabordable pour le soviétique moyen. Le prix est passé de 6 roubles et 95, il a donc presque doublé. Actuellement, il coûte environ 12 dollars au taux de change officiel. En comparaison, le même Big Mac aux États-Unis ne coûte que 2 dollars. Et pour terminer, notre cochon de la semaine, il nous a été inspiré par Sylvie Arcever du journal de Genève, qui est journaliste juridique et qui assiste donc aux séances du tribunal. Alors, comme elle est plus gentille que moi, elle n'a pas donné le nom des protagonistes, mais la petite histoire est assez jolie. C'est donc une séance au tribunal où il est beaucoup question d'argent, et de même de beaucoup d'argent, que ceux qui risquent de le perdre ou de le gagner, personne n'est là. Entre juristes, on a donc le cœur léger pour débattre, affleurer, moucheter des subtilités sans fin qui font le charme délétère de la loi des procédures civiles. Soudain, un mot du juge fait circuler un courant d'air froid dans cette assemblée. Il dit « J'ai toujours constaté qu'il est très difficile d'entretenir un dialogue constructif avec une femme ». L'avocate à qui cette galante remarque est destinée avale sa salive. Les confrères regardent ailleurs, on passe à autre chose. C'est juste un petit moment de sexisme ordinaire. Moralité, il ne faut vraiment pas s'étonner si, comme on nous l'a dit récemment, certaines avocates signent leurs lettres aux autres membres du barreau, votre dévoué confrère, tout cela au masculin. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Onde Femme Radio Zone. Je vous rappelle notre téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 00 33 depuis Val-Campagne.
Ask me why I have this smile upon my face. Ask me why I see a rainbow out in space. Well, I must.